Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tour d'horizon de la société européenne, avec aujourd'hui l'impact économique positif des migrants en Europe, Héreux, l'île danoise des mariages mixtes et cosmopolites, un vétéran de la gauche donné favori à la tête des travaillistes britanniques, enfin la Cappadoce qui n'est plus le pays des beaux chevaux. Longtemps désignés comme un fardeau, les migrants ne seraient-ils pas plutôt une ressource pour l'économie mondiale? Les migrants venant de pays en développement sont plus de 200 millions dans le monde. Par leur activité économique, ils contribuent à la croissance du PIB de leur pays d'accueil. Et l'argent qu'ils envoient dans leur pays d'origine équivaut à 3 fois le montant net de l'aide publique au développement. Le FIDA, Fonds de l'ONU pour le développement agricole, basé à Rome, s'est penché sur ce phénomène. Il cherche à sensibiliser sur les opportunités présentées par ce véritable trésor des migrants. C'est un reportage à Rome de Mathilde Villain.
Tous les chemins des migrants en Italie mènent à Roma Termini. La gare de Rome, point de passage, quartier cosmopolite. Ici, on navigue entre les échoppes des Pakistanais, les magasins de téléphonie mobile des Nigérians, un restaurant chinois ou encore un bar tenu par des Érythréens et fréquenté essentiellement par les Africains. Tout un monde fourmillant et hyperactif. Certes, ici aussi on se plaint de la crise, mais la plupart des migrants parvient quand même à envoyer régulièrement de l'argent au pays. Des petites sommes qui, mises bout à bout, deviennent conséquentes. C'est ce que révèle un rapport du FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, qui a son siège à Rome. Canaio Quince en est le président.
Notre rapport révèle l'énorme contribution des transferts d'argent des migrants en Europe et hors de l'Europe. Il montre qu'en 2014, ils ont envoyé 109 milliards de dollars hors de l'Europe. Et il montre aussi que les migrants contribuent au PIB des pays européens. Un quart seulement de leurs revenus partent à l'étranger. Donc, les 75% restants sont réinvestis ou consommés en Europe. Donc, cela contribue vraiment à la croissance.
Une partie des transferts de fonds partent vers des pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale. La Pologne ou l'Ukraine dépendent ainsi largement de ces envois d'argent de leurs travailleurs expatriés. Et pour les pays en développement, que ce soit en Afrique ou en Asie par exemple, la contribution des migrants à leur pays d'origine est parfois vitale. Pedro de Vasconcelos, expert financier au FIDA.
Ces flux surpassent l'aide officielle au développement, des fois 3 fois, 4 fois plus. Et dans certains cas, l'investissement étranger direct dans le pays. Cet argent est utilisé, bien sûr, pour des denrées essentielles, pour l'éducation de leurs enfants, pour avoir un toit sur leur tête, pour nourrir leurs enfants. Donc c'est très très noble. Mais il y a 20% de ces flux qui peuvent être investis ou épargnés. Le seul problème, c'est que ces options n'existent pas pour des millions de familles.
Les migrants eux-mêmes n'ont souvent pas conscience de l'importance de leur contribution à l'économie locale et à celle de leur pays d'origine. Cléophas Adrien Dioma, président du festival interculturel Ottobre Africano, a ainsi choisi d'insérer cette problématique dans son programme annuel de conférences. Objectif, former et informer les premiers concernés.
Même nous les immigrants, on ne sait pas. Non, chacun voit ses 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros à sa propre famille. Ne calcule pas combien d'argent t'envoie par mois et combien d'argent t'envoie par an. Tu ne te rends pas compte de toute la somme voilà, que tu as envoyée pendant peut-être ces 4, 5, 6, 7, 8 ans que tu es là. Et si on avait peut-être commencé à valoriser ça nous-mêmes, à comprendre que c'est beaucoup d'argent qu'on envoie, ça pourrait nous permettre aussi de dire, au lieu d'envoyer 20 euros par jour, par mois, on peut mettre un peu plus d'argent de côté et puis créer, pourquoi pas, des emplois.
Le FIDA tente justement de promouvoir différents moyens de valoriser ces transferts d'argent par un meilleur encadrement, par un meilleur conseil ou encore par une campagne en faveur d'un abaissement des frais liés à ces transactions. Pedro de Vasconcelos.
1 milliard de personnes dépend quelque part des transferts de fonds au niveau mondial. C'est un problème ou c'est une opportunité vraiment globale. On n'est pas là pour dire à qui que ce soit, n'aidez pas votre famille, faites quelque chose d'autre avec votre argent. Surtout à des gens qui ont quitté leur pays avec beaucoup de regrets, beaucoup de difficultés. On ne peut pas leur dire ça, mais on peut les aider à utiliser leurs fonds d'une meilleure façon, c'est-à-dire maximiser l'impact pour qu'ils puissent revenir Et surtout pour qu'aussi les prochaines générations n'aient pas à passer par le même processus. Et si on arrive à faire ça, on arrive vraiment au fait que la migration soit plus un choix qu'une nécessité.
Le rapport du FIDA rappelle enfin que réduire les coûts de ces transferts d'argent à 5% de la somme envoyée, en introduisant par exemple plus de concurrence entre les services, pourrait permettre de dégager 2,5 milliards d'euros au profit immédiat des travailleurs migrants et de leurs familles. C'était d'ailleurs un objectif que s'était fixé le G20 en 2009.
People are looking for hope. Our campaign, it's not me, it's our. It's a lot of people together are changing things and I happen to be in the position where I'm asked to speak on behalf of it. And I'm happy and proud to do so.
Les travaillistes britanniques vont élire leur nouveau chef après la démission d'Ed Miliband en mai dernier suite à l'humiliante défaite du Labour aux élections générales. Le vote a déjà commencé et les résultats seront connus ce week-end. Parmi les candidats, un vieux routard de la gauche fait figure de favori, même s'il est loin d'être consensuel. Jeremy Corbyn, député du nord de Londres, Marie Billon.
C'est le favori des sondages, Jeremy Corbyn, Jazz pour ses fans, Jazz Weekend, un slogan emprunté au Yes Weekend de Barack Obama. Il aurait sorti des centaines de Britanniques de leur apathie politique avec ses idées, la fin de l'austérité, la renationalisation des chemins de fer, la réouverture des mines de charbon. C'est un pacifiste aussi, il est contre le renouvellement des sous-marins nucléaires. Des propositions à gauche de la gauche qui, paradoxalement, réjouit les conservateurs. Jeremy Corbyn est trop radical pour être une menace électorale sérieuse pour la droite. C'est donc leur adversaire idéal. Parce que si Corbyn est le chouchou du public, il n'est certainement pas celui de ses collègues travaillistes. Il n'a quasiment aucun soutien au sein de son parti. Il a voté 500 fois contre la ligne officielle. C'est un outsider au sein même du Labour, un 68-ard barbu et mal fagoté. Yvette Cooper, candidate à la présidence du parti, n'a pas peur de le dire.
Jeremy offre de vieilles solutions pour de vieux problèmes, pas des solutions novatrices au problème d'aujourd'hui. Sa politique n'est pas celle qu'il nous faut. Elle n'est ni radicale, ni crédible, et elle ne va pas changer le monde. Elle vous empêche de regagner le pouvoir et nous empêche de changer le monde.
C'est la grande peur du Labour, une traversée du désert comme pendant l'ère Thatcher. Tony Blair est prêt à tout, même à supplier pour que cela n'arrive pas. Détestez-moi si vous voulez, mais ne vous vengez pas sur le parti, a-t-il dit. Un autre ex-premier ministre, Gordon Brown, a été lui plus diplomate. Il a dit que le devoir du parti et d'élire quelqu'un qui soit capable de prendre le pouvoir aux conservateurs, mais il n'a nommé ou dénoncé aucun candidat en particulier.
C'est une petite île danoise de la mer Baltique connue dans le monde entier, du moins par les candidats au mariage rapide, l'île d'Ere, où plus de 4000 personnes, en majorité étrangères, hétérosexuelles ou homosexuelles, sont venues se marier l'année dernière. Une chance pour elles et pour l'île, qui a développé toute une petite activité économique autour de ces mariages mixtes. Reportage de Songchim Courrier.
C'est le grand jour pour Jenny et Colette, celui où ils vont officiellement devenir mari et femme. Lui est américain, elle est écossaise. Ils vivent en Allemagne avec leurs deux enfants. Toute la petite famille a fait la route pour l'occasion. Là-bas, il leur faudrait au minimum 6 mois pour pouvoir se marier.
Grâce à la législation, c'est bien plus facile de se marier ici. Je pense que c'est le fait que nous soyons un couple mixte qui fait toute la différence. En Écosse, Jenny aurait été soumise aux règles en cours aux États-Unis. Et se marier là-bas nous aurait coûté bien plus cher. Donc, la meilleure des solutions était de prendre la voiture jusqu'ici.
Joanne est une des 4 greffiers employés à temps plein par la mairie. Rien qu'aujourd'hui, ce sont 27 couples qui se sont unis dans les bureaux de la mairie de Ere. Un succès que l'équipe municipale doit en partie à la rapidité des procédures administratives au Danemark, mais aussi à la souplesse du service d'état civil de la ville.
On peut tout régler assez rapidement. Je dirais que ça peut se faire en 2 jours si tous les papiers sont en ordre. Notre service administratif est rapide et efficace. Et c'est aussi notre point fort. C'est qu'à RE, on fait en sorte de traiter les affaires administratives très rapidement. Si vous n'avez jamais été marié, vous avez juste besoin de venir avec votre passeport et un permis de résidence au Danemark. Pour prouver que vous n'avez jamais été marié, on a seulement besoin d'une copie d'un livret de famille de votre pays d'origine. Donc, un document qui atteste que vous êtes célibataire. Une alternative est d'aller chez un avocat et de faire une attestation sur l'honneur. C'est tout ce dont on a besoin. Mais si vous êtes divorcé, il faut aussi un document qui prouve votre divorce. Et là, ça peut prendre un peu plus de temps selon le pays.
Dans les rues de la charmante ville de Herkebing, on croise beaucoup de couples tous de blanc vêtus. Mélanie et Larry vont se marier dans quelques heures. Ils boivent une tasse de thé, tout en espérant que le temps soit plus clément. C'est leur première visite au Danemark.
Le Danemark est l'un des seuls pays de l'Union européenne qui permet aux couples de se marier sans certains documents, comme le certificat de naissance, par exemple. C'est vraiment ce qui nous a poussés à venir jusqu'ici. Nous venons de deux pays différents et vivons dans un troisième pays. C'est clair que nous avions besoin de trouver un endroit nous permettant de nous marier sans ce certificat de naissance, et c'est la raison principale de notre séjour ici. Mais en même temps, pourquoi ne pas en profiter pour passer du temps dans un bel endroit avec des gens qui sont particulièrement conciliants.
Joanne, la greffière, a été engagée il y a bientôt 5 ans pour renforcer l'équipe qui croulait sous le travail. Et depuis qu'elle est arrivée, le nombre de couples qui se sont mariés ici ont quadruplé, un succès qui a aussi des retombées sur l'économie de l'île.
Si on ne prend en compte que ce que ça nous rapporte directement, c'est un peu moins de 70 euros. Ça couvre les frais d'administration, etc. Mais les bénéfices sont évidemment bien plus importants parce qu'il faut aussi prendre en compte que nous avons des emplois qui sont aussi créés en hiver. Et c'est ce dont nous avons besoin.
Karl travaille à l'office du tourisme de RE depuis plus de 7 ans, une activité qu'il a vue se développer, bien que les couples ne représentent qu'une partie des touristes.
Ces touristes-là sont très importants pour nous, c'est évident. Ils viennent aussi en dehors de la haute saison. Et ça permet à nos restaurants et à nos hôtels de rester ouverts en dehors de la période estivale. On peut dire qu'il y a entre 15 et 20 personnes à RE qui travaillent à temps plein dans l'activité des mariages.
Pour aider les couples à organiser leur mariage, à RE, il existe plusieurs agences spécialisées. Aujourd'hui, il y en a 4 sur l'île et 5 autres basées à l'étranger. John a rejoint Danish Island Wedding, poussé par l'ampleur du succès de l'entreprise de son épouse Louise.
C'est mon épouse qui a lancé cette société après avoir eu une conversation avec le maire qui avait remarqué qu'il y avait de plus en plus de couples qui venaient de l'étranger pour se marier chez nous. Et il fallait quelqu'un pour s'occuper d'eux. À notre plus grande surprise, les choses ont pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, c'est une entreprise rentable avec 3 personnes employées à temps plein et une à temps partiel. Je pense qu'aujourd'hui, nous comptons 135 nationalités que nous épinglons sur notre carte du monde au bureau pour garder une trace. Ils viennent à 99% de l'étranger et souvent de pays comme Dubaï ou d'autres endroits où les expatriés se rencontrent et vivent mais qui ne leur permettent pas de se marier. Ils viennent alors chez nous et c'est toujours sympathique de faire leur connaissance.
Pour cet ancien officier de la Royal Air Force, il y a certaines cérémonies qu'il ne sera pas prêt d'oublier.
Un jour, nous avons même organisé une cérémonie dans un avion. C'était vraiment drôle. Lui était américain et travaillait pour l'armée de l'air. Elle, c'était une charmante jeune Allemande et ils avaient envie de se dire oui dans les airs. Donc, on s'est débrouillé pour faire rentrer le notaire, les témoins et les mariés dans un petit avion.
Il y a aussi une autre raison qui fait du Danemark une destination prisée de nombreux couples. C'est que le Danemark a été le premier pays au monde à permettre aux homosexuels de s'unir civilement dès 1989 par le biais d'un partenariat.
Je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais je dirais que 10 à 15% des couples qui viennent chez nous sont des couples homosexuels et ils viennent de partout dans le monde. C'est une démarche difficile de venir d'un pays où ce n'est pas possible d'avoir un partenaire du même sexe, où c'est illégal, voire même répréhensible. Mais ils viennent quand même pour sceller leur union et puis ils repartent d'où ils viennent et gardent tout ça secret. Ils sont nombreux et je dirais même ils sont de plus en plus nombreux à venir ici.
Sur les 4200 couples qui se sont mariés à RE l'année dernière, seulement 45 étaient danois. RE est bien l'île des mariages mixtes.
Alerte au surpoids en Pologne. Ce sont surtout chez les enfants que l'obésité augmente. Pour en parler avec nous à Varsovie, Damien Simonard. Bonjour Damien.
Bonjour.
Alors les chiffres sont si alarmants que ça ?
Mais dans la catégorie des 11-15 ans, près d'un enfant polonais sur 4 est en surpoids ou cliniquement obèse. Ce chiffre a été multiplié par 10 au cours des 30 dernières années. D'après les observateurs, la croissance corporelle des Polonais est étroitement liée à la croissance économique du pays. La chute du communisme en 1989 n'aurait pas eu pour seul effet de libérer le pays. Plusieurs institutions, notamment l'Organisation mondiale de la santé, confirment ces chiffres. Les raisons, c'est avant tout que les Polonais mangent trop gras, pas assez de légumes, mangent trop tout court et ne font pas assez de sport.
Le gouvernement polonais a donc pris le taureau par les cornes. Une loi entrée en vigueur le 1er septembre interdit désormais la malbouffe dans les écoles.
Oui, il faut savoir que dans 2/3 des établissements scolaires en Pologne, en plus de la cantine, il y a au moins une petite épicerie où les élèves peuvent s'acheter quelque chose à manger. Ce sont ces épiceries qui sont principalement visées par la loi. Désormais, interdiction d'y vendre des chips, des gâteaux, des boissons sucrées, pas de mayonnaise dans les sandwichs, les viandes grasses sont bannies, la liste est longue, et quelconque commerçant ne respectera pas les règles risque jusqu'à 5000 zlotys d'amende, l'équivalent de 1 200 €. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale veut inciter les jeunes au sport. Désormais, les critères de notation au cours d'éducation physique ne seront plus basés sur le résultat sportif, mais sur la volonté de l'élève dans l'effort.
Alors comment les établissements réagissent à cette nouvelle loi qui, apparemment, ne fait pas l'unanimité ?
Effectivement, l'intention du gouvernement est bonne, mais tout cela a un coût pour les cantines scolaires. Cuisiner équilibré, voire bio, est plus cher. Conséquence, les tarifs des repas à la cantine vont augmenter. Pour les familles à petit budget, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais ce sont surtout les propriétaires d'épiceries scolaires qui sont inquiets. Eux sont franchement menacés de faillite et trouvent cette loi ridicule, car si un élève veut manger des chips, il n'aura qu'à s'en acheter un paquet au supermarché. Personne ne le fouillera à l'entrée de l'école. Une nutritionniste avec qui j'ai parlé a finalement trouvé la bonne conclusion. On peut instaurer beaucoup de lois pour dicter aux enfants ce qu'ils doivent manger, mais pour que ce soit efficace, c'est aux parents de les éduquer à la maison.
Merci Damien Simonard à Varsovie. Dans les guides touristiques sur la Turquie, au chapitre Cappadoce, on lit souvent que ce nom signifie « le pays des beaux chevaux ». Mais il n'en est rien, cette appellation serait due en fait au mensonge d'un photographe qui, au début des années 80, a voulu éviter la censure de la junte militaire. Alors comment cette invention s'est-elle transformée en vérité universelle ? Anne Andlauer nous en dit un peu plus.
Ceux qui se sont déjà rendus ou simplement intéressés à la région de Cappadoce ont forcément lu dans un livre, sur un panneau ou même entendu de la bouche d'un guide, une histoire poétique sur l'origine du mot. La Cappadoce devrait son nom aux Perses et signifierait le pays des beaux chevaux. C'est ce qu'on nous raconte depuis des décennies. Dans la région, les chevaux sont certes nombreux et très beaux, ils n'ont pourtant aucun rapport avec le nom du lieu. Tout est né d'un mensonge dont l'auteur, le célèbre photographe turc Ozan Sadıç, s'est expliqué en août dans une revue d'histoire. Retour en 1981. Cette année-là, alors que la Turquie vient de subir un coup d'État et que le chef du putsch, Kenan Evren, s'est fait élire président dans ses habits de général, on prépare l'ouverture de la saison touristique. Une cérémonie est prévue, le président sera là. Au ministère de la Culture, on imagine un événement en Cappadoce, région encore peu visitée mais tellement prometteuse. Ozan Sadıç est contacté. Après tout, cela fait des années qu'il photographie la région. Il doit même publier un livre. Mais il y a un problème. Les généraux ne veulent pas entendre le mot Cappadoce. Ils se sont mis en tête que ce nom descendrait du grec ancien et les relations avec la Grèce ne sont pas au beau fixe 7 ans après l'affaire de Chypre. Ozan Sadıç, qui malgré ses recherches ignore l'origine du mot, décide d'inventer une histoire. Cappadoce ne serait pas grec mais perse et il signifierait « pays des beaux chevaux ». Pratique, logique, les généraux le croient. La cérémonie se passe à merveille, le livre paraît en 5 langues et la légende des beaux chevaux commence à faire son chemin dans les guides touristiques. Même les habitants de la région finissent par se l'approprier. Aujourd'hui, Ozan Sadıç avoue qu'il a menti, tout inventé sous la pression. Regrette-t-il ? Pas vraiment, tout le monde y a trouvé son compte, dit-il. Mais personne ne sait encore, avec certitude en tout cas, d'où la Cappadoce tient son nom.
Et c'est la fin d'Accent d'Europe, une émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. On se retrouve dès demain à 17h40 temps universel et tout de suite sur RFI.fr.